Ça marche, super. Bon, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ces tiers lieux. C'est l'occasion de sortir des quatre murs de l'institution académique pour parler d'objets en lien avec la numérisation, le développement humain, l'éducation, la formation. Puis aujourd'hui, un thème tout particulier où on fait un exercice de lecture critique d'un document. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais je profite pour remercier Anya et Mathieu d'avoir piloté et organisé en fait, ce moment-là, de l'avoir structuré. On enregistre pendant un temps, le temps de base, de discussion, puis après on interrompra et puis on pourra discuter à bâton rompu sans la pression d'un enregistrement. À vous la parole, merci beaucoup.
Moi je vais juste introduire le fait que en sus de l'enregistrement de la discussion, il y aura une prise de notes de ce qui sera dit sous forme graphique sur un canevas A3 pour tester une façon de rendre compte d'une conversation de façon graphique. Et à voir si ce sera, à voir le résultat que ça donne et qui sera peut-être publié. C'est l'idée de faire une carte heuristique de ce qui a été discuté. Ensuite, pour introduire quand même le sujet du texte, je laisse la parole à Anya.
Alors, donc, c'est un manifeste. Et donc, dans ce texte que j'ai trouvé plutôt fort, une écriture qui est percutante, je trouve qu'en fait on voit bien la multiplicité des engagements de Donna Haraway. Donc je resitue l'auteur, donc c'est une philosophe féministe américaine qui s'est beaucoup inspirée du mouvement marxiste pour penser en fait, et plus particulièrement c'est un mouvement marxiste postmoderne noir états-unien. Donc si je resitue un petit peu plus sa pensée. Dans ce texte, Donna Haraway essaie de montrer comment la figure du cyborg, elle va être ambivalente, à la fois le cyborg, ben, c'est un être humain qui est dépouillé de son essence pour être absorbé par une machine, et le manifeste cyborg qui date de 1985 se situe dans le prolongement de films comme Terminator, paru en 1984, de films comme Robocop aussi en 1987, et dans le cadre de ces films, on assiste en fait à toute une machinerie hollywoodienne qui nous présente la figure du cyborg, qui est finalement la représentation d'un hyper-capitalisme, capitaliste militariste, qui va s'emparer en fait du corps humain pour mieux le contrôler. Et d'un autre côté, le cyborg pour Haraway, en fait, c'est l'opportunité aussi de déjouer tout ce narratif pour entrer dans un... Enfin, pour elle, la figure du cyborg, c'est aussi l'occasion de mettre en place un discours philosophique et émancipateur. Donc je m'explique. Donc, comme je vous ai dit avant, Donna Haraway est une philosophe féministe et elle s'intéresse en particulier à la condition des femmes. Et au lieu de considérer la femme comme en lien avec la nature, comme ce qui a été beaucoup fait par les féministes avant elle, de relier la femme par exemple à tout ce qui va être du soin, de la nature, et vraiment prendre des distances avec la technologie, et bien, en fait, Haraway, elle prend le contre-pied de tout ça, et elle prend une figure inattendue, c'est le cyborg, pour essayer de penser ce qu'est la femme. Et donc, elle essaye de voir comment le cyborg peut aborder la condition féminine et de voir en fait comme quelque chose qui est hybride, donc quelque chose qui est traversé par des systèmes de domination patriarcaux, technologiques. Et en fait, elle va montrer que les femmes ne sont pas du tout à distance des techniques, au contraire, elles sont prises là-dedans. Et comment, au lieu de vouloir justement s'extraire de cette science, parce que Donna Haraway, il faut rappeler qu'elle est, c'est une scientifique qui va prôner une science, mais une science différente en fait. Donc, par la figure du cyborg, elle invite à bousculer en fait notre vision de ce qu'est la femme dans le domaine de la technologie. Donc, elle va rompre avec cette idée de la femme proche de la nature, et en montrant que finalement l'individu est tout à la fois biologique et technique, toujours en relation avec les outils, et que son histoire c'est une histoire de couplage, d'augmentation. Par exemple, moi j'ai dans ma bouche de la ferraille, donc je suis, j'ai des éléments inertes, mais en même temps des éléments biologiques. Et elle montre aussi que depuis toujours, l'être humain il a utilisé la technique, par exemple, dans les vallées pour augmenter son écho. Il a utilisé en fait les techniques qui permettent de faire porter la voix. Donc en fait, on est toujours à la fois technique et biologique. Donc un des grands points du manifeste Tibor, c'est de s'interroger en fait sur les dualismes entre technique et biologique, et voir comment finalement on est toutes et tous cyborgs, mais sans forcément reprendre cette idée du cyborg à la hollywoodienne. En fait, elle propose en fait une réflexion un peu plus approfondie à l'aide du féminisme. Mais je vais laisser mon collègue parler.
Oui, merci. Ben, ça introduit déjà très bien le texte et l'intention. Pour identifier cette idée de cyborg, de couplage humain, techno ou vivant techno, elle s'appuie beaucoup sur ce qu'elle nomme la technique de la science-fiction, et elle donne en fin de manifeste de nombreux exemples de science-fiction écrites par des femmes. Et la littérature permet de projeter et de créer au-delà de certaines limites du réel opposé à la fiction, et ça donne des espaces, des utopies où justement il y a une hybridation entre le genre, la technique, la classe, parce que justement il y a cette dimension marxiste-marxienne avec le concept de classe qui est très important dans cette tradition philosophique. Mais pas que. Moi j'en ai proposé pour aussi peut-être initier des idées à ce propos, faire un détour par un autre de ces textes publié en français en 2023 qui s'appelle « Vivre avec le trouble ». Il ne s'agit pas d'un article de psychologie, c'est plutôt un trouble plus commun dû à une époque sociale. Et puis elle donne un exemple d'un cyborg. Un cyborg qui est... Non, j'ai une photo ici que je vais vous faire circuler. On ne voit peut-être pas très bien. Je décris l'image pour aussi le podcast. C'est la photo qui était prise dans les années 70 ou 80 d'un appareil, d'un hélicoptère dans lequel se trouve un pigeon dans une petite bulle. Et ce pigeon qui se retrouve dans ce dispositif technique et cet hélicoptère, il est intégré dans un programme de recherche parce que, et là je cite Donna Haraway dans cet ouvrage « Vivre avec le trouble », les pigeons réussissaient mieux que les humains à repérer des personnes ou du matériel au large. Confrontés à des problèmes similaires, leur taux de réussite s'élevait à 93%, là où celui de nos congénères était de 38%. Les oiseaux étaient alors juchés dans une bulle d'observation fixée sous un hélicoptère. Dès qu'ils décernaient quelque chose, ils le faisaient savoir en donnant des coups de bec sur des touches. Lorsqu'ils travaillaient avec leurs compagnons humains plutôt qu'en solitaire, leur taux de réussite aux exercices frisait même les 100%. Évidemment, il fut pour cela nécessaire d'apprendre à communiquer. Les pigeons durent aussi comprendre ce que leurs humains voulaient qu'ils repèrent. Les uns et les autres se virent contraints d'inventer des moyens pédagogiques et techniques, non mimétiques, pour se rendre mutuellement capables de résoudre des problèmes qui leur étaient à tous inédits. Les pigeons, cependant, n'accédèrent jamais au rang de sauveteurs professionnels de vrais naufragés. En 1983, deux accidents d'hélicoptère et une coupe budgétaire dans les fonds fédéraux signèrent la fin de ce projet états-unien. Mais là, on a affaire à un pigeon cyborg. on a affaire non seulement à un pigeon cyborg, mais encore plus à un rapport humain-non humain, hybride, commun, où là on a développé une science, la biologie, qui ne sert pas que l'exploitation du vivant, mais qui amène à un travail commun, sous condition d'avoir une communication commune et des intérêts communs. Mais c'est l'idée d'une hybridation entre la humain, non humain et technique. Donc je fais déjà un détour du texte, et peut-être pour mieux arriver sur le texte en disant, bon bah c'est vrai qu'on a toujours cette opposition hollywoodienne. Robocop, il lui reste que son âme de flic, c'est-à-dire pas grand-chose d'humanité, et on le met dans une super armure en métal. C'est difficile de voir plus loin que ça. Mais là, cette image de pigeon, j'espère, permet de voir au-delà, dans un rapport non seulement d'humain à humain, d'humain à technologie, mais d'humain à non-humain, les pigeons ou d'autres espèces. De là à imaginer découvrir des mines dans les terrains de guerre sur le continent africain, en Ukraine, avec des cochons truffiers, ou tout plein d'autres idées ainsi. Donc on comprend bien que la science et la biologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui prend une autre direction qui est beaucoup plus celle de l'exploitation, sans prêter attention aux compétences extra-humaines ici de vue des pigeons. Voilà, je ne sais pas si ça donne nourriture ou si ça paraît trop extravagant. Mais en tout cas, c'est une réalité qui date des années 1980.
Moi, ça me parle beaucoup parce que Anna Arroway, c'est une grande amie des chiens, qu'elle appelle les espèces compagnes. Et je pense, je suis pas sûre, mais je pense pas qu'elle aurait dit que les pigeons sont non humains. Parce qu'ils ont toujours quelque chose qui est informé en fait par nous. On les a conçus, on les conçoit comme... Enfin, là, on les utilise en l'occurrence et ils sont notre outil. Et donc, mais je trouve ça super intéressant d'essayer de penser un peu au-delà du cyborg classique. Mmh.
Ce qu'il en sort jusque-là, je ne sais pas si c'est l'occasion pour nous d'intervenir, mais c'est que d'ores et déjà, il faut élargir l'image que l'on a du cyborg. Et qu'il y a quelque chose dans les réflexions, ce n'est pas uniquement Robocop et l'agent militaire, c'est toute forme d'extension de soi par la technique, toute forme d'ajout de fonctionnalités par des technologies numériques ou analogiques, etc. Ou par la collaboration avec d'autres facultés animales, par exemple. Et comme ça permet d'avoir une analyse plus large qu'une image très très sélective de ce rapprochement humain-machine qui n'est pas cette visée-là d'homme fort armé, mais qui peut avoir d'autres visées en fait.
Tout à fait.
Ce qui met sens sur cette phrase, alors je sais pas si vous voulez en venir après, mais plutôt cyborg que princesse. Déesse, pardon. Parce que tout d'un coup, cyborg prend un autre sens. Sans ça, je ne comprenais pas cette phrase.
C'est vrai qu'ici, on a aussi l'autre opposé. En fait, le cyborg, ce n'est pas que l'humain augmenté. Enfin, ça peut aussi être la machine augmentée. Comme je disais avec ça, je crois qu'il y avait aussi un programme des Américains avec des missiles guidés par des pigeons. Où c'était le pigeon dans une bulle aussi comme ça, mais qui tapait vers les cibles. Qui a été abandonné, hein, malheureusement. Et puis, tu as aussi avec des abeilles, ils cherchent les mines. Ils dressent des abeilles à trouver les explosifs et après ils peuvent se servir d'abeilles pour repérer les explosifs. Mais c'est dans l'autre sens, on augmente une machine à partir d'un être, quoi, qui a des capteurs plus performants que la machine en fait.
Très intéressant, je réagis sur le... Peut-être que c'est pas pertinent, mais dans quel sens ça va? Est-ce que c'est un vivant augmenté par la machine ou la machine augmentée par un vivant? Et la machine, elle n'est pas sortie du sol comme ça. La machine est déjà une extension humaine. de la considérer comme étant donnée, c'est le danger de ne pas voir les intentions contenues dans la machine à la base. Je pense que...
Moi, je pense que la lecture de Haraway, elle est bien plus large que humain augmenté. Oui. Parce que, en fait, je vais reprendre un extrait qui m'a beaucoup touchée. C'est « Être femme n'est pas un état en soi, mais signifie appartenir à une catégorie hautement complexe, construite à partir de discours scientifiques sur le sexe et autres pratiques sociales tout aussi discutables. Conscience de classe, conscience de race ou conscience de genre nous ont été imposées par l'implacable expérience historique des réalités contradictoires du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat, qui compose ce nous dans ma propre rhétorique. » Et à la fin, elle finit cet extrait en disant qu'une autre possibilité de réponse à ces crises est imposée la coalition, l'affinité plutôt que l'identité. En fait, quand elle définit la femme comme cyborg, elle pense à des femmes qui sont composites, hybrides, parce qu'on est traversé par différentes oppressions qui vont être différentes en fait. Et donc, dont les causes et les conséquences vont être différentes selon notre statut social, etc. Si je suis une femme blanche, je n'ai pas la même expérience qu'une femme noire, qui n'a pas la même expérience qu'une femme lesbienne, etc. Donc, ou qu'une femme paupérisée. Et donc, concevoir la femme comme un être hybride, comme un cyborg, ça permet en fait à Haraway de dire que finalement l'ennemi, il est commun, et qu'il y a une affinité qui est commune plutôt qu'une identité. Et donc, elle va se placer un peu contre ces luttes identitaires, puisqu'en fait, elles ne vont pas être rassembleuses, et plutôt chercher une affinité. Et la possibilité de coalition, selon Haraway, c'est contre un système de domination qui est commun. Et c'est le capitalisme militaro-américano-centré, comme elle l'appelle. Et donc, je trouve intéressant vraiment dans ce manifeste cyborg, que ce cyborg, en fait, c'est la construction d'une identité politique femme qui est hybride, en fait. Et donc moi, c'est ce qui m'a intéressé en fait dans ce manifeste. Elle dit que le sujet politique du féminisme, il est impur. En fait, il est pas, c'est pas quelque chose qui est unifié. C'est quelque chose qui est composite, et c'est plutôt des affinités qu'il faudrait rechercher.
Si j'ose, ça veut dire alors que la notion de cyborg, elle est encore plus élargie. C'est pas forcément l'humain augmenté de technique. En fait, c'est la polysémie derrière l'humanité, au fait.
Exactement. Et que les femmes sont aussi traversées par la technique, mais par d'autres rapports de domination, mais la technique en est un. Et qu'on n'est pas du tout... Elle parle des femmes dans un circuit intégré, je sais pas si... Et en fait, elle parle de ces nouvelles travailleuses qui ont émergé avec la modernité, qui travaillent sur des pièces maintenant de plus en plus petites, dans des zones franches industrielles de non-droit, qui sont barricadées et qui travaillent toute la journée sur des caisses minuscules. Il y avait l'exemple d'un clavier qui avait 91 vis à dévisser. Et donc il fallait des loupes minuscules. Et en fait, ça crée une nouvelle forme d'esclavagisme moderne. Et ces nouvelles esclaves sont en particulier des femmes fatiguées. Donc je trouvais super intéressant comment en fait elle dit que c'est des cyborgs en fait. Et qu'on a aussi, qu'elle participe à la technique, mais d'une autre manière qui n'est pas celle qui est mise en avant par l'industrie.
La machine, ce serait l'industrialisation et le capitalisme, et puis qui est augmenté par les ouvriers.
Ouais, on peut voir comme ça, peut-être.
Il y a, pour repasser une couche sur ce qui a été dit par Anna, il y a quand même ce point important d'une pluralité d'expériences d'oppression, de discrimination, selon alors, le genre, selon... la race, selon la classe, et que toutes ces expériences spécifiques, différentes l'une de l'autre, se retrouvent, et le point de retrouvailles, c'est justement cet ennemi commun, le capitalisme et le patriarcat, et aussi les formes un peu spécifiques que peut prendre ce système d'oppression selon les lieux, les époques, et les modes de production. Et ça, c'est écrit en 1985 par Donna Haraway, et c'est arrivé dans le milieu francophone académique, je dirais dans les années 2000-2010, sous le terme d'intersectionnalité. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà entendu notamment par les mouvements, les collectifs féministes en Suisse romande, ce concept très important, qui je pense vaut la peine d'être à nouveau rappelé. Je ne sais pas quelle est la compréhension autour de la table, autour de cette intersectionnalité, ça, à quel point ça vous parle, ou de 0 à 10
Bon, je ne saurais pas mettre un chiffre, mais moi ce que je peux mettre comme représentation que j'ai de cette intersectionnalité, c'est que c'est un concept pour permettre de soulever que derrière des catégories qui permettent de discriminer des gens, souvent il y a des catégories qui sont exclusives les unes les autres, et alors c'est pas le cas. Par exemple, je me souviens, il y a des structures de soutien pour des personnes fragiles qui mettaient les personnes âgées, voilà tous les soutiens existants, les personnes handicapées, voilà toutes les personnes. Mais est-ce qu'une personne âgée et handicapée, elle va dans quelle catégorie en fait ? L'intersectionnalité était de se dire que des fois, les gens ont des variables plurielles qui rentrent dans des catégories différentes, et puis le simple fait de devoir faire des catégories pose problème à des individualités en fait. Alors après, je sais pas le lien que tu veux faire avec l'intersectionnalité pour aller plus loin, mais une réflexion que vous avez amenée avant, un propos que vous avez soulevé, c'est en fait, est-ce qu'on pourrait considérer que la technique est un moyen d'oppression en fait ? Est un levier d'oppression par les personnes qui en ont la maîtrise, de faire des choix pour maintenir des pouvoirs en place, etc. Est-ce que c'est ça dans la thèse de Haraway ?
Moi, je pense que justement, c'est intéressant, mais en fait, Haraway, c'est pas seulement une critique qui se manifeste.
Okay.
C'est un co-engendrement. C'est-à-dire que en même temps, elle va essayer de produire quelque chose d'autre. Parce que c'est bien la critique, mm-hmm. déconstruire sociologiquement des réalités, oui, alors la technique opprime en particulier les femmes racisées, mais l'idée d'Haraway, c'est de voir que en fait finalement les femmes ont une place dans cette technique, et que depuis très longtemps, et qu'en fait elle est juste invisibilisée, et que finalement elle appelle en fait le féminisme à reprendre un peu du pouvoir sur la technique. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai compris, parce que en connaissant un petit peu l'historique et la vie de Donna Haraway, c'est quelqu'un qui est quand même très proche des sciences. Je comprends plus que comme une critique, comme un co-engendrement. Elle réinvente en fait. Et comment la technique a un pouvoir émancipateur, si on fait l'effort en fait d'entrer dans une réflexion un peu plus profonde.
Tout à fait. Une citation du manifeste. En 1985, hein, les nouvelles technologies de la communication jouent un rôle fondamental dans l'éradication de notre vie publique à tous. En 1985, alors qu'est-ce que ça peut être ? C'était pas Microsoft Teams, ok, mais ça peut être l'arrivée des paiements électroniques par carte. S'il n'y a pas de cash, il y a une traçabilité monstre qui s'instaure. Pour une surveillance, qu'elle soit étatique, capitaliste ou privée d'individu à individu. Hein. Ça permet facilement au mari de surveiller les dépenses de sa femme, par exemple. Donc là-dedans, bien sûr que oui, la technétique ou les entiques servent à un contrôle. Mais cette fonction ne réside pas en leur nature. Les tics peuvent être autrement, et justement c'est la condition si on la prend en main, et si on contrôle aussi les conditions d'émergence et de conception.
Elle refuse aussi d'être dans un certain manichéisme, c'est qu'elle refuse en fait qu'il y ait du bien et du mal. En fait, aux États-Unis, pendant la guerre froide, on a eu tout un discours envers la Russie. C'est mal, nous, les États-Unis, on va apporter du bien. Et elle, en fait, elle prend le contre-pied de tout ça et elle dit que finalement, c'est jamais ni bien ni mal, ni entièrement bien, ni entièrement mal. et qu'en fait, elle nous oblige en fait avec ce cyborg de penser en fait des contraires ensemble, le bien, le mal, à la fois la nature et la culture, la biologie et la technique, et que finalement la réalité elle va être toujours bancale, qu'elle va jamais être complètement stable. Et je trouve que c'est en fait c'est ce qui ressort de ce texte. Quand on l'a lu, on est un peu troublé,
chamboulé,
parce qu'en fait on ne sait pas finalement comment se positionner, mais c'est parce qu'elle refuse aussi un certain moralisme. Et je trouve ça super intéressant et c'est assez rare de lire des manifestes, enfin pas des manifestes, mais une littérature féministe aussi déstabilisante.
Tout à fait. Et c'est le propre de philosophe d'être au-delà du manichéisme, de la philosophie de faire ça.
Est-ce qu'on pourrait synthétiser la figure du cyborg dans sa compréhension
Tu voulais parler?
Excuse, vas-y.
On va prendre la parole.
Allez-y, je ne veux pas monopoliser, sûr.
En fait, j'allais dire, par rapport, si vous permettez, une petite, pas critique, mais analyse à propos de ce que j'ai entendu, est-ce que ce n'est pas l'usage de la technique qui est à remettre en question plutôt que la technique elle-même? C'est-à-dire que, pour l'exemple de l'oppression, de ce qu'on peut comparer à l'esclavage, en utilisant les techniques, mais si on avait un autre usage, peut-être on pouvait profiter des techniques et des technologies autrement. Ça peut être le cas pour l'exemple que tu as cité, Mathieu, pour le paiement électronique. Si on prévoit les législations qui protègent les informations des personnes, etc., est-ce que la technique n'est pas juste un moyen de simplifier les transactions? Et je fais basculer un tout petit peu le débat par rapport à la question du numérique et de l'usage du numérique qui est parfois détourné et qui remet en question le numérique lui-même. C'est-à-dire que pour un usage qui est un petit peu détourné par rapport à certaines expériences où il y a beaucoup de distractions, où il y a beaucoup de problèmes de prise en main, etc. On arrive parfois à des conclusions de finalement le numérique à l'école c'est pas une bonne expérience, mais c'est juste qu'on n'était pas sur l'usage adéquat. Donc là je me demande aussi généralement quand on parle de technique, est-ce que c'est l'usage ou la technique elle-même?
Moi je pense que dans son manifeste, Awawai, elle dénonce certains usages qui conduisent notamment à un esclavagisme moderne, mais elle dénonce aussi tout un narratif viriliste qui entoure la notion de cyborg. Donc je pense qu'il y a les deux, que les deux s'entretiennent. Et effectivement, je pense que dans tout son manifeste, elle dénonce une certaine forme d'utilisation des technologies.
La narration, c'est une forme d'usage aussi. C'est-à-dire que la narration, c'est un usage, si je me permets, conceptuel d'un concept.
Intéressant.
C'est peut-être une manière d'utiliser et de faire utiliser dans la manière dont on veut, en fait. Ouais. Une manière de diffuser des usages. Ouais, c'est certain, oui.
Si, du coup, on a un usage pédagogique et le discours qui en est dit, il faut que ce soit efficace et productif. Là, on vise une dimension cyborgienne des élèves. Et maintenant, est-ce que c'est le cyborg qui est souhaité par Donna Haraway? Moi, je crois justement que c'est à l'opposé. Et c'est marrant parce que du coup, on revient sur un humain qui remplit sa tâche, qui est efficace et qui est dans la performance et mesuré en temps réel avec ses traces d'apprentissage. Et puis, je ne sais pas quel cyborg ça donne.
Bon, moi je fais une réflexion entre cette expérience avec le pigeon et puis l'hélicoptère qui date des années 1980, c'est ça? La citation de Mathieu, c'était de 1985. Et là, on a un article récent et une réflexion sur Bogen, comme tu l'appelles, et de dire que finalement, avec une différence de 40 ans, on est au même point. Ma réflexion est la suivante, qu'est-ce qu'on a manqué finalement dans le développement de la société ou dans nos pratiques pédagogiques, enseignantes, sociales, toutes les réflexions qu'on peut faire en tant qu'adulte, élève, apprenant ou je ne sais pas, qu'on forme les futurs apprenants pour dire, enfin les futurs citoyens, citoyennes finalement, de dire mais finalement comment faire face à tout ça? Parce que sur une base de données, on est au même point. Avec les éléments qu'on a, bien sûr.
Mm-hmm. C'est vrai que les rapports de force sont importants aussi pour le... Quel est le but final? Quelle est l'intention derrière? Si celui qui produit les applications donne, comme dans beaucoup... Avec la série Dopamine, ça m'a fait penser justement. Où on donne, par exemple, Instagram. Ok, super, vous pouvez partager des photos avec vos amis. Ça pourrait être juste ça, l'outil et l'usage à faire. Mais derrière, on a un monument d'intentions cachées et puis d'usage en fait. En utilisant l'application, on va fournir beaucoup plus que ce qu'on voudrait et on est dirigé dans une certaine direction qui ne serait peut-être pas celle qu'on prendrait si on avait le plein contrôle de l'outil. Dans beaucoup d'outils, ça se passe comme ça à cause du système capitaliste pour ça, où on produit une application pour faire du revenu, produire du revenu. Ce qui fait que souvent, ben, on aura des applications open source qui sont un peu moins belles, moins pratiques, mais qui font ce qu'elles doivent. Et à côté, des trucs super addictifs où il y a plus de petites fonctionnalités cachées qui font qu'on reste dessus pour produire des données ou bien des choses qui vont rapporter de l'argent. Parce que celui qui produit le tout a le contrôle en fait sur l'utilisateur. L'utilisateur devrait prendre contrôle sur l'outil. Ce qui est important en fait dans la manière d'enseigner ça.
C'est intéressant parce que j'essaie de faire du lien avec tous vos propos et peut-être dites-moi si je fais des liens absurdes, notamment avec le texte que je n'ai pas lu, que vous avez narré, donc je me base que sur vos discours. Est-ce qu'il y a entre ton vœu pieux de où on en est avec cet exemple que tu donnes, etc., est-ce que l'on n'a pas encore accepté le fait que être cyborg, ça prend différentes formes en fait? Est-ce que l'éducation, la formation qui intègre les technologies numériques, les TIC, les NTIC, n'a pas encore accepté le fait que ça peut prendre des formes diverses, que ça doit prendre des formes diverses? Sinon, ça veut dire qu'il y a une personne qui décide d'une forme de cyborg plus valorisée qu'une autre et qui l'impose au fait à autrui. Et donc on rentre, alors peut-être que c'est pas Robocop, parce que c'est plus ce cyborg-là qu'on met en avant, mais peut-être c'est un autre de... pardon de la caricature, mais de l'employé de commerce hyper efficace qui maîtrise tous ses suites logicielles pour bouffer de la paperasse. Et est-ce que c'est cette forme de cyborg-là que l'on a envie de soutenir, ou est-ce que c'est le fait que ça ouvre le champ des possibles, et puis c'est là qu'il y a une tension, et que finalement cette forme de cyborg, comme elle est conceptualisée par l'autrice ici, est fort intéressante parce que est-ce qu'on est capable, dans un contexte de formation et d'éducation, d'accepter au fait la pluralité des outputs au fait. Les jeunes qui sortent, est-ce qu'on accepte ceci? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que finalement non? Et donc, peu importe les techniques actuellement développées dans la société, elles vont toujours être prises par quelqu'un avec une vision et un narratif qui est défini et imposé à la génération N-1 ou N-1, je ne sais pas dans quel sens faut dire. Et en fait, les mécanismes sont les mêmes, finalement, peu importe les techniques à disposition. On a fait ce même chenille avec les cartes de crédit, aujourd'hui on le fait avec l'IA, il faut employer l'IA, etc. Puis quand il y aura le métaverse, il va falloir acheter des casques parce que tout le monde doit pouvoir être efficace. Mais finalement, le fait d'accepter que les techniques pourraient ouvrir le champ des possibles, mais que des gens décident des techniques qui s'imposent à autrui, donc ça referme le champ des possibles, et ça ostracise certaines gens, ça paupérise d'autres, mais ça valorise et met sur un piédestal certaines autres personnes, etc.
Moi, je sais pas. Je pense que c'est intéressant comme lecture, et en fait j'aimerais bien vous lire un extrait. Ton propos il fait assez écho à cet extrait là. Elle dit « Récapitulons, certains dualismes constituent des traits persistants des traditions occidentales, tous contribuent à la logique et aux pratiques du système de domination des gens de couleur, de la nature, des travailleurs, des animaux, en gros à la domination de tout ce qui est autre et qui ne sert qu'à renvoyer l'image de soi. » Après elle dit la culture des hautes technologies remet en cause ces dualismes de façon mystérieuse. Et elle dit que les dualismes les plus inquiétants sont les suivants. Soit autre, corps, esprit, nature, culture, mâle, femelle, civilité, primitif, réalité, apparence, tout, partie, agent, ressource, créateur, créature, actif, passif, vrai, faux, vérité, illusion, total, partiel, vieux, homme. En gros, elle dit que finalement, la technique, ça contribue à réactiver ces dualismes, mais en même temps, ça permet de les remettre en question, comme le fait la figure du cyborg, en fait. Puisque tout est mélangé, on ne sait plus où s'arrête le biologique, où commence le technique ou la technique. Et finalement, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi appelle Arroway, c'est à nous représenter la réalité sociale autrement qu'à partir de dualisme. Et je pense que justement, ça répond aussi en partie à ta réflexion, c'est que depuis 1985, on a toujours pensé la société à partir de dualisme, que finalement, c'est quelque chose qui est encore très prégnant aujourd'hui, et que finalement, c'est la modernité qui a construit ces dualismes. Hommes-femmes, privé-public, personnel-politique, quand on pense au contrat social de Rousseau, nature-culture. Moi, c'est en même temps, c'est toujours cette ambivalence des techniques. Elle nous permet de dévoiler une certaine réalité, donc c'est un potentiel émancipateur, mais en même temps, elle masque ou elle renforce les dualismes.
Je pense qu'on est aussi dans une société, en tout cas une actualité, où les besoins se créent. Comme par exemple les réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui pose problème, ce n'est pas que les réseaux sociaux existent, mais l'utilisation des réseaux sociaux, notamment par les jeunes. Mais là, ça veut dire que si on souhaite répondre aux besoins des élèves, enfin des jeunes, il faut déjà aller les identifier. Sauf que ces outils-là, peut-être l'utilisation dans la préparation à l'utilisation n'est pas encore au point, ça veut dire qu'il y a des besoins qui se créent de manière continue. Et puis, on est un peu à la chasse, mais finalement, on n'anticipe jamais la problématique et puis on ne répond jamais, en fait, aux besoins, parce qu'il y a des nouveaux besoins qui se créent de façon continue grâce au développement de la technologie ou la mauvaise utilisation.
Je serais encore plus critique que toi là-dedans. Alors, je ne sais pas le lien que je peux faire avec le texte et le cyborg, mais c'est que je pense que ça répond très, très bien à des besoins, sauf que ce n'est pas aux besoins des jeunes. C'est aux besoins des investisseurs, le truc est extrêmement bien ficelé pour répondre à ces besoins-là. Donc c'est plutôt une identification de qui est dans la situation et qui est dans la capacité de concevoir les techniques pour répondre à ses propres besoins.
Après, tout dépend si on parle de l'offre ou de la demande.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et où est-ce qu'on se situe finalement dans cet équilibre, mm-hmm. Et puis où est-ce que se situent les jeunes, les citoyens de manière générale, pour identifier les besoins ou encore anticiper les besoins qui se créent, notamment grâce à ces algorithmes et puis à toutes ces logiques qu'il y a derrière les applications.
Et ce que tu dis amènerait quelque chose, un projet hyper intéressant à mener, et je pense qu'il y a des enjeux de génération, de culture, de genre, etc. Mais aller voir les jeunes puis leur demander quel cyborg il et elle souhaitent être, devenir. C'est quoi la figure que vous aimeriez devenir? Et puis comment l'école peut vous accompagner là-dedans? Est-ce que vous avez envie vous-même de développer certaines techniques parce que c'est ça qui vous intéresse? Alors après, il faudrait aussi profiter d'analyser le narratif qui influence leur prise de décision, leur discours. Parce que très probablement qu'il y a à venir, alors peut-être je suis Jasmine, cette youtubeur, c'est certainement que c'est déjà fini, ça dit. On ne peut plus être youtubeur aujourd'hui, mais peut-être influenceur, riche, etc. Mais cela dit, ce serait au moins déjà leur permettre d'auto-définir quel cyborg ou quelle place laisser à la technique, laisser à l'altérité, laisser à la complexité de leur identité, qui serait assez intéressant à mener, des projets comme ça assez, assez riches.
Ça donne des idées.
Ça pose aussi la question de la temporalité. J'ai l'impression que la manière dont on a développé, là, comme on a tout d'un coup dit, du jour au lendemain presque, tous les élèves au CO auront un ordinateur personnel. C'est un petit peu, il y a du court terme où on dit, maintenant les autres ils font ça, il faut qu'on le fasse aussi. Et on fait de la dactylo, bien on va apprendre du Python, parce que maintenant Python c'est le langage à la mode, etc. Alors qu'il faudrait vraiment aussi planifier ça sur le long terme. Donc, ok, on va faire dans du court terme, on a besoin de pallier certaines choses, certains problèmes, certains manquements qu'on a eu depuis trop longtemps. Mais sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut? C'est toi que je crois qu'il nous enseignait justement qu'il ne faut pas enseigner un langage, enfin, il ne faut pas habituer les élèves à un langage, mais il faut les adapter à tous ces langages un peu de manière générale. Il faut faire du général, mais du particulier aussi. Mais il faut voir le long terme pour ça. Pour se dire, dans 20 ans, ce qu'on a fait maintenant à l'école doit être utile. Ça ne doit pas être un truc qu'on commence maintenant, puis après on se rendra compte que la dactylo, en fait, c'est un petit peu des heures de perdu pendant longtemps.
Moi, j'aime bien cette idée pour répondre à ce que tu dis de cyborg, justement, capable de s'adapter.
Mais dans quel but? Parce qu'une fois que tous les humains sont des machines de guerre, on aura besoin d'une nouvelle étape.
Non, mais on n'est pas obligé d'avoir comme absolu la machine de guerre vers là où on veut tendre. C'est des propos aussi qui sont assez intéressants d'aller chercher peut-être dans les auteurs, les autrices de science-fiction. Est-ce qu'on peut avoir une science-fiction qui nous amène à un autre idéal que du cyberpunk, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une science-fiction où les gens embrassent les arbres? J'en sais rien, mais c'est une caricature.
Une science-fiction où on peut amener son chat sur son lieu de travail, car le chat est le meilleur assureur de bien-être psychologique. Et que tu rentres les mains avec ton chat sur ton épaule.
C'est une forme de cyborg.
Ces ondes alpha te rendent serein pour une meilleure performativité au travail.
Est-ce que ce ne serait pas l'idée de Google qui, à l'entrée de leur bâtiment central, met un dinosaure qui dit si tu t'adaptes ou pas,
Oui, c'est l'idée, mais avant, c'est dans le bâton plutôt que carotte. Ouais.
Donc, de toute façon, on ne peut pas résister au développement, à la tendance, à la technologie. Il faut savoir comment s'adapter. Comment devenir cyborg, articuler tout ce qui est technologique et biologique dans un épanouissement personnel et professionnel aussi.
Moi, j'aurais une question aux deux personnes qui ont lu le texte, parce que moi, cette phrase, elle m'avait beaucoup surprise. Plutôt cyborg que déesse. Pourquoi l'autrice dit ça et qu'est-ce que vous comprenez de ça, en fait, de cette phrase-là en fait.
J'ai quelque chose à dire, mais toi aussi.
C'est une phrase qui est plutôt ironique. Elle dit pas que, et on pourrait le comprendre ainsi, être une déesse, c'est complètement désuet, c'est hyper féminisé. C'est pas ça, en fait. Ah ouais, elle est pas dans la critique des déesses, parce que pour elle, une déesse, c'est aussi une cyborg. Mais elle préfère être cyborg parce que c'est une pluralité d'identité. Okay. C'est plus intéressant d'être cyborg que déesse finalement. On est moins linéaire, on est composite, on accepte cette composition. Elle préfère être cyborg que déesse, mais c'est pas une critique de la féminité, non. De la féminisation des corps.
Est-ce que ça veut dire que cyborg laisse le champ des possibles ouvert alors que déesse referme tout? Il y a un peu de ça?
Et c'est mal traduit, je préfère être cyborg que déesse. Je crois que dans la version originale, c'est j'aime mieux être cyborg que déesse, mais okay. Elle laisse ouvert en fait. Ouais, si ouais. Toi tu préfères être déesse que cyborg, enfin, sois déesse en fait. Ouais. Chez Arroway, il n'y a pas d'injonction en fait. Et c'est ce que je trouve super intéressant dans ce texte. Après, je ne sais pas si tu voulais revenir là-dessus, mais moi j'avais aussi envie d'aborder la manière dont Arroway écrit.
Un petit complément sur le DS Cyborg, il y a, et ça c'est documenté par les luttes féministes, l'idée, lorsqu'on attribue le genre femme à un individu, on restreint sa liberté, on objectivise, on essentialise, on réduit l'individu à quelque chose, une fonction, une esthétique. Un mythe, en l'occurrence en parlant d'une déesse. La déesse Athéna, c'est que la déesse Athéna, et puis c'en est des statues maintenant. Même si dans le mythe, bien sûr, elle a une force, une autonomie, un pouvoir. Mais c'est toujours cette idée de essentialiser, objectiver un individu femme. Et en tant qu'individu philosophe de l'émancipation, Donna Haraway s'oppose à cette objectivation de l'individu femme parce que elle écrit également que féminiser ça signifie rendre extrêmement vulnérable et c'est toujours ça c'est d'actualité encore aujourd'hui hein. Ainsi non je veux pas être ta déesse parce que du coup je serai ta déesse, il y a déjà l'accaparement la possession. On est toujours déesse de quelqu'un. Et du coup, ça permet toujours un retournement, une instrumentalisation de la déesse par les gens qui l'adorent. Une femme ne veut pas être adorée. Une femme, c'est un individu qui veut agir dans en autonomie avec ses semblables. Donc il y a aussi cette dimension-là, je crois, tu me dis si mon interprétation est erronée. C'est réducteur, une déesse.
Alors que la figure du cyborg, avec une compréhension large de cyborg et pas uniquement Robocop, laisse effectivement tout ouvert, extrêmement ouvert.
Il y a des philosophes comme Golbe Preciado ou Sam Bourcier qui se sont ressaisis de l'œuvre de Donna Haraway justement pour interroger l'hétéronormativité, la binarité des genres et réinventer en fait nos propres frontières grâce au cyborg. Et c'est les mouvements queer ont beaucoup adopté Manifest Cyborg pour réfléchir leur concept.
Oui, est-ce qu'on a encore le temps de parler de ce Preciado
Alors, ouais, alors volontiers, ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Je propose qu'on fasse ça de manière assez rapide, pas sans être superficiel non plus. Puis après, on tente de conclure.
Ok. C'est aussi un passage sur un autre auteur pour comprendre cette philosophie de l'émancipation. Donc, Paul Preciado, un homme trans qui s'est adressé à des psychanalystes. Son discours se retrouve dans un petit livre qui s'appelle « Je suis un monstre qui vous parle ». Et un monstre, cyborg, c'est quelque chose qui sort de l'humanité. Et Preciado fait tout un travail pour casser cette dualité femme-homme, parce que son expérience de transidentité montre que ces deux catégories qui ne sont pas... Enfin, on peut passer d'une à l'autre et la présence de personnes non-binaires aussi. Et il dit ma présence, mon existence physique sous vos yeux montre que votre schéma de psychanalyse bourgeoise avec l'opposition homme-femme n'a plus lieu d'être. Et il appelle à un renouveau épistémologique de la psychanalyse qui ne se base pas sur la dualité homme-femme.
Vous précisez quand même que la psychanalyse, c'est une pseudo-science qui est basée sur pas grand-chose. D'où le fait que ça fait plus de mal que de bien pour certaines choses.
C'est une pseudo-science et qui a quand même ses assises, qui a quand même son pouvoir et qui agit en France, notamment là, c'est le pays dans lequel a été fait ce discours. Qui a un impact extraordinaire sur des milliers de vies et de beaucoup de vies féminines. On y vient à nouveau. Et là, c'est sur la dualité du genre, Preciado arrive et éclate le cadre dans lequel est tenu ses discours, dans lequel sont fondés ses usages du genre, la femme sert à ça, l'homme à ci. Il est là, il arrive et il dit, il faut dépasser cette épistémologie de l'hétéronormativité et de la différenciation sexuelle. Non pas pour casser la biologie et dire qu'il n'y a plus de spermatozoïdes et d'ovocytes, mais pour dire que cette épistémologie, elle ne sert pas les individus, c'est un pouvoir qui est imposé sur les individus et leur trajectoire individuelle. Bref, les personnes trans, on les tue, et ce qui permet cette violence envers une partie de la population, c'est ce dualisme que Donna Haraway a cité, enfin que Anya a cité tout à l'heure dans le texte de Donna Haraway.
Peut-être pour faire le lien avec cet enjeu cyborg, si je comprends bien, ce qu'on pourrait dire, que le langage et les catégories qu'on utilise dans notre administration, dans notre société, dans notre manière de comprendre le monde, sont à nouveau des techniques qui réduisent au fait le potentiel cyborg des gens, d'une certaine manière, la pluralité des personnes. C'est une technique parmi plein d'autres qui m'empêche d'être pleinement cyborg et qui me met déjà DS ou évidemment tout autre.
Mais je pense que Paul D. Preciado va un peu plus loin que Donna Haraway. Bon, il écrit plus tard. C'est que lui, il est vraiment dans un processus de désidentification. Et Donna Haraway, elle reste quand même dans ces catégories. Elle dit qu'on est tous composites, donc en même temps, elle les garde. Mm-hmm. Elle joue avec, mais elle les conserve.
Elle s'autorise quand même à les changer.
Elle les conserve, elle les met ensemble. Mm-hmm. Elle joue avec, mais elle les garde. Elle liste beaucoup de catégories qui sont opposées. Mm-hmm. Et elle l'invite à les prendre ensemble. Tandis que Paul D. Preciado va un cran plus loin en disant qu'il faut rejeter ces catégories. Donc je trouve...
Ouais.
Et moi, j'aimerais juste finir avec en disant que pour moi, la grande contribution de Donna Haraway, hormis le manifeste cyborg, c'est l'épistémologie des savoirs situés. En fait, c'est l'idée que l'épistémologie, c'est un agir politique, au sens où finalement, la science, elle a été développée sur des textes canoniques, pardon, un ensemble de récits qui étaient prétendument neutres et universels. Et en fait, Haraway, elle fait une critique très forte de la notion d'objectivité, telle que donc elle a été construite dans la modernité classique, à partir d'une figure intéressante dans un autre texte qu'elle nomme le témoin modeste. Et le témoin modeste, pour Haraway, c'est un sujet de connaissance qui est complètement désincarné, qui valorise une vision surplombante, prétend un discours de vérité, alors qu'en fait, tout objet de connaissance et toute production scientifique est le produit finalement d'un sujet qui est à la fois partiel et partial. On est à chaque fois incarné, un sujet incarné, qui est nourri d'une expérience pour produire en fait la connaissance. Donc, ce que je trouve intéressant par rapport à Haraway, c'est qu'elle invite à une forme d'humilité dans la science, dans les techniques, et ça en fait, pour Haraway, c'est une épistémologie qui est révolutionnaire. Donc moi, c'est vraiment un des points qui m'a le plus intéressée, c'est vraiment la dimension épistémologique de son texte.
Je suis désolé.
Bon, peut-être que... Est-ce qu'on arrive gentiment à un mot de la fin? Qu'est-ce qu'on garde de cet échange-là? Qu'est-ce qui est porteur dans ce texte pour penser notre rapport au développement des techniques, notre rapport à la numérisation et au développement humain via, par exemple, l'éducation et la formation?
De ramener des savoirs qui sont situés, okay, incarnés et qui portent d'autres valeurs que celles de l'universalisme, de l'indépendance, de la méritocratie, et pour avoir une pluralité de valeurs, de care, de soins à autrui, d'interconnexion.
Moi, j'ai pas. Ce qui m'a le plus parlé, c'est les idées de demander à un élève quel cyborg tu veux devenir. Il a développé plein de programmes, de cours, enfin, c'est quelque chose qui me semble très pertinent.
Et dans une réalité où savoir quelles questions poser aux élèves, on peut facilement être délicat par rapport à tout ce qui est culturel, social, etc. Moi, je pense qu'on arrive à une question qui ferait plaisir à tous les élèves, indépendamment du parcours ou des besoins du profil scolaire. Ça ne me dérangerait pas, en fait, si on me demande quel type de support tu veux devenir. Et peut-être, je ne sais pas, conclure avec le fait que la technologie telle que... les réflexions, enfin, telles qu'elles nous ramènent vers les réflexions, même si j'ai dit tout à l'heure qu'on est au même endroit, enfin, au même moment, 40 ans après, on pense que c'est quand même un élément unificateur de tous les groupes de société, indépendamment de tous ces sous-groupes, qu'on soit homme, femme, etc., etc. Donc, d'une façon disciplinaire, on peut se positionner comme ça, mais finalement là, on est dans une approche interdisciplinaire pour dire qu'on peut être cyborg sans forcément être sectoriel, en fait, dans notre façon de penser.
Ah ben c'est ça que je garde surtout, c'est en fait une redéfinition de la notion de cyborg qui est extrêmement ouverte, qui donne plus ou moins de place à une diversité de techniques plus ou moins grande, et que ces techniques sont aussi le langage qui peuvent réduire la complexité des gens, par exemple. Et donc être cyborg, je mets beaucoup de sens maintenant sur je préfère être cyborg que DS, j'arrive à mettre du sens là-dessus, et ça me conforte dans, alors pardon pour le barbarisme, mais dans l'idée de s'intéresser de plus en plus en éducation et en formation, que ce soit l'éducation numérique ou autre, hein, aux capacités plutôt qu'aux compétences, pour travailler sur cette possibilité de choix, développer du pouvoir d'agir et pas juste des savoirs.
Moi aussi, je pense qu'on a besoin de diffuser cette vision du cyborg, qui est une pluralité d'identités, qui est un vécu riche, une multitude de d'aspects, surtout quand on va, lorsqu'il s'agit de poser la question à des élèves, parce que j'ai l'impression que le concept qui prédomine actuellement, c'est celui véhiculé par les productions hollywoodiennes où le cyborg est un humain augmenté et qui tire sur tout le monde et qui est très fort. Et qui a même un côté un peu viril qui n'est pas du tout celui qui est diffusé dans l'idée de l'autrice. Donc je pense qu'on a besoin de diffuser également ce concept de cyborg auprès des plus jeunes.
Ok, bah, merci beaucoup pour la qualité des échanges et puis continuons autour d'un verre.
Merci.